à tous et à toutes. Vous êtes de nouveau sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, nouveau volet de l'émission Mode d'emploi animé par l'équipe de la Fondation Copernic. Comme vous le savez, tous les quatrièmes vendredis du mois. Alors, aujourd'hui, pour présenter l'émission, Didier, Laurent et Claude à la technique. Alors, l'émission de ce soir, eh bien, sera consacrée au mouvement de jeunesse. On reviendra sur cette question, d'ailleurs, puisqu'on a déjà eu un premier petit débat. Et on l'a intitulé « Des indignés aux Occupy ». Donc, on voit bien après la question. On va s'intéresser à ces mouvements qui se sont développés ces dernières années dans pas mal de pays en Europe et ailleurs, d'ailleurs, puisque ces mouvements ont touché aussi bien le Mexique que d'autres pays. Évidemment, on a connu les mouvements aux États-Unis. Alors l'idée, ça sera un petit peu de s'interroger sur les origines, les enjeux et le devenir finalement de ces mouvements qui sont devenus au cours de ces dernières décennies un des acteurs sociaux tout à fait importants, comme je l'ai dit, en France comme ailleurs. Alors pour discuter de ces questions, eh bien nous avons invité deux spécialistes de ces problèmes. Gus Massia, alors bonjour Gus.
Bonjour.
Alors Gus, qui est membre du CRID et qui est par ailleurs au Conseil international du Forum social mondial, auteur par ailleurs de l'ouvrage « Une stratégie altermondialiste à la découverte » en 2010. Alors Gus est avec nous mais par téléphone aujourd'hui. Merci. Et puis Geoffroy Pleyers, chercheur au FNRS, qui est l'équivalent finalement du CNRS en Belgique. Donc Geoffroy Pleyers est belge. Merci d'être là.
Merci.
Et donc, il est membre du CADIS EHESS, donc ici à Paris, et il est l'auteur de deux ouvrages dernièrement. Le premier, en anglais, vous excuserez l'accent, « Alter Globalization, Becoming Actors in a Global Age » au Cambridge Polity Press, en 2010, et par ailleurs, auteur, donc, en 2011, de « La consommation critique » chez De Clés de Bouvet. Alors, vous pouvez, comme à chaque fois, appeler l'émission au 01 40 05 06 10 et pour intervenir, pour poser des questions à nos invités. Et par ailleurs, vous le savez, vous pouvez ensuite télécharger cette émission sur le site de la Fondation Copernic ou, si vous le désirez, la réécouter mercredi prochain entre 7h et 8h le matin. Bien, bonjour donc de nouveau Gus,
bonjour
Geoffroy. Alors on a prévu, puisque je crois que vous vous connaissez.
Oui, très bien.
Voilà. Donc on a prévu un petit peu de démarrer avec vous autour de, essayer un petit peu planter le paysage, que vous nous disiez l'un et l'autre comment ces mouvements ont pu apparaître, comment ces mouvements sont apparus, et puis comment un petit peu se composent-ils, composition sociologique, composition âge, est-ce que ces mouvements ont une certaine spécificité, et on y reviendra peut-être dans une seconde partie de l'émission, par rapport à au mouvement plus traditionnel autour du syndicalisme et des partis politiques plus traditionnels. Alors, première question à l'un et à l'autre. Bon, alors, depuis quand ces mouvements existent-ils? Quand sont-ils apparus? Et ont-ils une certaine spécificité particulière qui les distingue des autres? Geoffroy?
Oui, mais je pense que ce sont des mouvements... Il y a plusieurs temporalités. Une temporalité évidente, c'est qu'il y a toujours des mouvements sociaux, qu'ils s'appuient les uns sur les autres, qu'ils développent des expériences qui existaient déjà auparavant sous d'autres formes. Et puis en même temps, il y a quand même aussi une nouvelle vague qui est apparue, de manière très intéressante. Elle est apparue quelques années quand même après la crise de 2007-2008, où on a quand même vu le mouvement altermondialiste qui n'était pas très visible dans les médias. Paradoxe, le mouvement altermondialiste avait... prévu la crise, les experts économistes altermondialistes avaient expliqué depuis bien longtemps ce qui allait se passer. On peut dire qu'ils avaient raison, et il y a même le discours de Nicolas Sarkozy où il reprend les thèmes altermondialistes. Donc ils ont raison, mais en même temps la crise arrive et on ne voit pas grand-chose dans les rues, on ne voit pas beaucoup non plus de changements politiques. Et donc tout d'un coup arrive un mouvement qui part du sud, très intéressant, on parle beaucoup du monde arabe. Je dirais qu'avant ça, il faut quand même prendre aussi le cas de l'Islande, qui est particulièrement intéressant, peut-être vers 2008. Ensuite, on voit un mouvement très médiatique en Tunisie, en Égypte. Il s'étend en Espagne le 15 mai 2011, donc ça fait tout juste 2 ans. Il commence à Madrid, à Barcelone, et puis Ça s'étend en Europe, essentiellement, en France un petit peu, dans d'autres pays. Bon, le mouvement a son expérience et tout d'un coup surgit un mouvement qui est lié à la fois à la place Tahrir en Égypte et à ce qui s'est passé en Espagne, Occupy Wall Street. Voilà. Avec la même idée, ici dire, bon, la concentration des richesses dans 1% de la population, ce n'est plus tenable, ça déforme notre démocratie. Et donc là, c'est comme un mouvement qui arrive à mettre ça jusqu'au sommet, jusqu'au grand titre des médias. Et donc, on parle de nouveau d'inégalité de classe aux États-Unis aussi, alors que c'est finalement une réaction face à cette crise, qui est une crise économique, mais aussi une crise démocratique. Et puis, à partir d'Occupy Wall Street, c'était très intéressant de voir comment ça s'est étendu très vite dans tous les États-Unis, au Canada, Occupy London, qui était passionnant, avec bien sûr des limites aussi, mais un mouvement qui n'était pas commun en Angleterre, au centre de la City. Et puis alors, un mouvement particulièrement intéressant aussi en Russie, après les élections, Occupy Moscow, qui était au mois de mars 2012. Et puis d'autres mouvements qui sont très liés, comme par exemple le mouvement Yo Soy 132, je suis 132 au Mexique, qui de nouveau conteste la collusion entre les pouvoirs économiques, les 1% plus riches, comme disent les Américains, les pouvoirs politiques, mais aussi les médias. Et comment les médias ont fabriqué ce candidat aux élections présidentielles au Mexique.
Alors justement, vous parlez un peu des causes de ces mouvements. Est-ce qu'on a des causes homogènes entre ces différents pays?
Je vais peut-être poser la question à
Agus.
Agus.
Oui, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec le tableau qu'a dressé Geoffrey. Alors, ce que je dirais, c'est que effectivement, c'est à partir de 2008, on a deux choses qui sont claires. D'une part, c'est l'ouverture officielle de la crise, qui jusqu'à là était niée, et à partir de 2008, et notamment avec la crise des subprimes, il est évident que la crise n'est pas seulement financière, que c'est une crise beaucoup plus grave, que c'est une crise systémique, structurelle. Et donc, en même temps que cette crise apparaît comme évidente, eh bien, il y a un nouveau cycle de lutte, et même de révolution, qui est la réponse des peuples à cette phase de la crise. Et donc, je pense que ça commence, ce nouveau cycle commence en Tunisie, à partir de 2008 d'ailleurs, à partir des luttes sociales et puis des luttes pour la démocratie, et s'étend à l'Égypte et puis ensuite dans l'ensemble de la région, et puis comme l'a dit Geoffrey, s'élargit à l'Espagne, à Occupy et à beaucoup d'autres endroits. Alors, je dirais que, de fait, les propositions qui sont mises en avant par ces nouveaux mouvements qui apparaissent et qui, d'une certaine manière, prolongent et renouvellent le mouvement altermondialiste, parce que chaque mouvement historique nouveau prolonge et renouvelle les mouvements précédents. Et quelles sont les propositions qui sont mises en avant sur les places de la Casbah à Tunis et la place Al-Tahrir au Caire? C'est d'abord la question du refus de l'injustice sociale, des inégalités sociales. C'est aussi la question de la démocratie, des libertés, en fait, et puis c'est la question géopolitique de la domination et de la décolonisation inachevée. Mais avec un élément nouveau qui est mis en évidence, c'est la question de la corruption comme un élément fondamental de la nouvelle situation politique mondiale à travers, d'une certaine manière, la fusion de la classe financière et de la classe politique. Et alors, ce mouvement donc qui part de Tunisie et d'Égypte, quand il passe la Méditerranée et qu'il se retrouve en Espagne, il pose deux autres dimensions de la crise. C'est la question de la démocratie, de la représentativité d'ailleurs, de la démocratie, et dans les formes du mouvement et dans ses revendications, démocratie il y a, nous voulons la démocratie, une vraie démocratie. Et puis, avec Occupy, et puis aussi en Espagne, très présente la question écologique, évidemment, des limites du système productiviste actuel et des formes de consommation dont Geoffrey pourrait parler après beaucoup mieux que moi. Alors, mais, comme l'a dit Geoffrey aussi, il y a l'Islande, il y a Occupy London, mais il y a aussi une autre composante du mouvement qui va apparaître à peu près en même temps, qui est le mouvement de jeunesse, et notamment de la jeunesse étudiante au sens très très large du terme, avec notamment Londres, le mouvement des étudiants à Londres, la Croatie qui va aussi être très très active, et puis de façon très importante le Chili et puis le Québec avec les carrés rouges. Mmh. Et là on voit la question que tu posais sur la composition sociologique d'une certaine manière.
Ou générationnelle.
Ce que l'on voit, c'est que on voit apparaître une évidence, c'est la faillite du système éducatif mondial. Parce que ce que l'on voit, c'est que la nouvelle base sociale de ce mouvement, c'est une base sociale d'une nouvelle génération, à la fois culturelle et démographique. Et cette nouvelle génération, d'une certaine manière, elle pose la question de ce que l'on appelle les chômeurs diplômés. Les chômeurs diplômés qui est une nouvelle alliance de classe entre les enfants des couches populaires et les enfants des couches moyennes, et qui va être particulièrement forte, notamment dans ce que l'on va voir au Chili, au Québec,
en Espagne.
Et un peu partout ailleurs, c'est-à-dire le fait que le nouveau système éducatif mondial est un système qui, comme le système des subprimes au niveau du logement, finance l'éducation à partir de l'endettement des étudiants et de leurs familles, et que avec cette promesse que travaillez bien, vous aurez des bons diplômes. Si vous avez un bon diplôme, vous aurez un bon emploi et vous pourrez rembourser votre dette. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens travaillent beaucoup, ils ont des très bons diplômes, mais ils n'ont pas d'emploi et après, ils ont quand même toujours leur dette. Est-ce et donc, que... c'est par rapport à ça qu'il y a cette révolte de la jeunesse par rapport à ce mensonge, d'une certaine manière, et à la fin de la promesse du système éducatif.
D'accord. On voit bien l'origine, on voit bien dans ce que vous avez dit l'un et l'autre, l'origine, disons, économique, hein, de la crise de ces mouvements. On voit quelque chose, me semble-t-il, qui, c'est un peu la question que je vous adresse à l'un comme à l'autre, hein. Peut-être Geoffrey en début, puisque voilà, Gus vient de reprendre un peu l'ensemble du processus. Est-ce qu'on peut dire quand même que la spécificité de ces mouvements, c'est justement d'allier, peut-être plus qu'avant, je sais pas, c'est un peu la question que je vous pose, hein, plus qu'avant, revendications économiques et sociales et revendications démocratiques. Est-ce que ça, c'est pas un peu la spécificité de ces mouvements par rapport à, on y reviendra après peut-être, hein, plus largement, mais par rapport aux mouvements sociaux traditionnels organisés dans le cadre syndical ou dans le cadre politique?
Oui, c'est une question importante. Il faut dire d'abord que ces deux aspects, démocratie et justice sociale, étaient très présents dans le mouvement altermondialiste, par exemple. Un mouvement qui a repris en force la question des inégalités dans les mouvements. Donc il s'agissait de reconnaissance, on peut penser aux mouvements indigènes qui sont tellement importants dans le mouvement altermondialiste, le mouvement des femmes et d'autres, mais aussi de redistribution, donc des aspects plus économiques. Et donc le mouvement altermondialiste avait déjà un peu rassemblé tout cela. Cela dit, je pense que ces mouvements, les mouvements, comment dire, de 2011 ou d'après 2011, le font, les intègrent bien plus fortement, et les deux sont très fortement liés. Par exemple, une des valeurs centrales, pour rajouter à l'excellent exposé de Gus, comme d'habitude, je dirais, dans son cas, et une valeur peut-être, une autre valeur, c'était la dignité. La dignité, en Tunisie, c'était, ils ont baptisé la révolution de la dignité. C'est une valeur très présente aussi. On parle des indignés, bon, ça, il y a tout un débat, mais enfin, cette dignité est importante. Et donc, nous avons souvent une vision très post-matérialiste, une vision en termes de reconnaissance de la dignité. Les activistes que j'ai pu interroger en Tunisie m'ont tous expliqué la même chose en disant, quand je leur demandais qu'est-ce que c'est la dignité, c'est pas évident à définir, eh bien, ils m'expliquaient bien sûr qu'il y avait une dimension de reconnaissance, mais un jeune m'expliquait par exemple, la dignité, c'est que à 25 ans, je n'ai plus besoin d'aller demander de l'argent à ma mère et que j'ai du travail, que je puisse gagner ma vie et donc marcher la tête haute. Ce que je veux dire par là, c'est que les aspects économiques et les aspects de reconnaissance sont très liés. Tout cela est aussi très lié à la démocratie. Et là, j'étais très surpris. De nouveau, j'ai fait une petite enquête dans 7 pays en Europe avec la London School of Economics et à propos de cette crise. Et partout, on me disait la même chose. Bien sûr, on est très affecté par la crise économique, mais on est scandalisé par le traitement de cette crise économique. Le fait que la démocratie est devenue une démocratie vide, comme le disait très bien Gus, que les décisions importantes qui sont prises ne sont plus prises par les représentants élus. Et même quand on va voter pour quelqu'un en Espagne, lors des élections locales, on a le choix entre deux grands partis qui ont à peu près les mêmes politiques économiques, nous disait-il. C'est exactement la même chose qu'aux États-Unis avec deux partis. On le voit récemment avec la nomination assez incroyable de Madame White pour contrôler Wall Street par Obama. On voit qu'Obama, c'est un soutien. On demande à quelqu'un qui vient de Wall Street, qui travaille pour Wall Street, de réguler Wall Street. Donc là, on dit il n'y a pas de choix. Démocratie sans choix, disent les Espagnols. On veut plus de démocratie. Ce que j'aimerais dire aussi là-dessus, donc l'aspect de démocratie représentative me paraît très important, Gus l'a souligné. Ce sont des mouvements qui pointent non seulement la défaillance parfois personnelle, la corruption de certaines personnes, bien sûr, mais surtout les limites structurelles de la démocratie représentative. Même si on a les meilleures personnes en place, la démocratie représentative n'est pas suffisante dans le monde aujourd'hui. Il faut beaucoup plus que ça.
On reviendra sur ce point lorsqu'on parlera des formes d'engagement qui sont adoptées dans la deuxième partie de l'émission.
Et donc, peut-être un dernier point là-dessus, c'est dire que je dirais même que la revendication de la démocratie est tellement forte, à mon avis, peut-être moins parce que le monde est moins démocratique aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, la démocratie dans le monde arabe, c'était pas la joie. Mais ce qui est peut-être différent aujourd'hui, c'est l'aspiration à la démocratie qui est beaucoup plus forte. Quand ces jeunes arabes se mobilisent, ce n'est pas pour avoir la même démocratie que nous avons ici. Ce n'est pas une démocratie qui existe déjà, une démocratie qui est limitée au monde institutionnel. C'est une démocratie où il y a beaucoup plus que ça, où on est entendu de différentes manières, il y a une partie participative, il y a beaucoup d'autres choses. Et donc, on a trop vite traduit en disant, oui, ils veulent la même chose que ce que nous avons ici. Je crois que ce n'est pas ça du tout. Ils ne veulent pas pas uniquement ce système-là. Cela dit, tous les activistes ne seront pas forcément d'accord avec ça, mais je pense que la démocratie représentative reste une pierre angulaire, reste quelque chose de très important. Mais elle est complétée par toute une série d'initiatives au niveau de la consommation, au niveau de la démocratie plus directe. Et donc là, je crois que à la suite des mouvements altermondialistes et d'autres mouvements, les aspirations à la démocratie, une démocratie plus dense, est très importante et plus importante peut-être qu'auparavant. Et c'est ça qui a aussi provoqué ces mouvements.
Alors, on parle de cette crise démocratique et de l'expansion de ces mouvements. Alors, on peut s'interroger, peut-être Gus, vous pourrez nous apporter une réponse, sur pourquoi dans certains pays on a eu ce développement de ces mouvements et dans d'autres comme la France, même s'il y a eu un mouvement mais plutôt restreint, ou d'autres pays européens, on n'a pas eu cette mise en place de tous ces mouvements.
Bon, ce qui est très intéressant avec ces mouvements, parce que c'est un nouveau cycle, c'est que dans chaque cycle de soulèvement, de révolte populaire, et même peut-être de révolution, mais la révolution, ça s'analyse ou ça se vit sur une génération, et pas sur une journée ou sur deux ou trois ans, c'est que, de fait, le soubassement est toujours social. On ne peut analyser aucune forme de révolte, de revendication ou autre, si on ne part pas de la situation sociale. Et donc, effectivement, c'est la situation sociale, et notamment la phase actuelle de la mondialisation, qui est le fondement de ces nouveaux mouvements. Mais si on revient sur l'histoire de toutes les révolutions que l'on a pu connaître au cours des derniers siècles, eh bien, aucune révolution n'est uniquement sociale. Elle s'exprime toujours à travers la question des libertés, des droits et des formes démocratiques. La démocratie n'étant pas des formes juridiques, mais étant la manière de garantir les libertés. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que on voit bien que le soubassement social se traduit par la revendication de liberté, de démocratie, et donc celle-ci, elle prend des formes correspondant aux situations dans lesquelles on est. Parce que les réponses politiques sont toujours, comme disait Sartre, situationnelles. La liberté est situationnelle. Et donc les peuples, eh bien, ils posent des questions par rapport à la situation dans laquelle ils sont et pas par rapport à une réflexion théorique, d'une certaine manière. Donc, d'une certaine manière, effectivement, en Tunisie, en Égypte, dans l'ensemble de la région du Maghreb et du Machrek, il y a une situation dans chaque pays et une situation dans la région. La situation dans la région, c'est une demande de démocratisation par rapport à des dictatures. Exactement comme il y a 35 ans en Amérique latine, eh bien, la révolution qui a commencé était une révolution par rapport à la question de la démocratisation et de la fin des dictatures. Et donc, effectivement, les formes et les revendications qui sont mises en avant sont celles-ci. En Europe, par contre, effectivement, et c'est ce que l'on voit aussi bien à Londres que en Espagne, au Portugal, en Grèce. La question, elle se situe par rapport à l'offensive du capital et à une idée qui est quand même quelque chose que l'on découvre, que l'on redécouvre, c'est que il ne peut pas y avoir de démocratie politique s'il n'y a pas un minimum de démocratie sociale. À partir du moment où on remet en cause les questions de la protection sociale, la question de tout ce qui avait été conquis par les luttes sociales auparavant, eh bien, effectivement, à partir de ce moment-là, on voit que les formes de la revendication sont les formes, justement, de la démocratie, du rapport à l'État, et de qu'est-ce que ça veut dire que cette démocratie qui accepte l'explosion des inégalités. Et aux États-Unis, ce que ça met en avant de façon très intéressante, parce que c'est quelque chose qui est valable un peu partout, c'est l'existence d'une oligarchie mondiale. Le 1%, le fameux « vous êtes 1%, nous sommes 99% », ça veut dire il y a une oligarchie mondiale qui contrôle la finance, mais qui contrôle aussi l'économie, le social et le politique.
Non, attends, voilà. je te coupe.
C'est un peu ça... Que nous voyons, et c'est pour ça que les formes sont... Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est très important, c'est que les formes sont toujours à la fois nationales, dans la question par rapport au périmètre des États, mais aussi géopolitiques, géoculturelles, parce que dans chaque région, il y a la manière dont les idées se développent, la manière dont elles circulent, et que, aussi, la mondialisation, depuis quelques années, se dirige plutôt vers l'organisation de grandes régions, à la fois économiques, géoéconomiques et géoculturelles.
La question initiale était, pourquoi est-ce que ces mouvements se sont développés à la fois en Espagne, effectivement à Londres, aux États-Unis, et moins par exemple en Allemagne ou en France. Alors, de ta réponse, j'entends finalement, parce qu'on est dans ces pays, est-ce que c'est bien ça, et 30 secondes pour répondre, hein, après on va avoir une pause musicale. Donc ce que je comprends de la réponse, c'est parce qu'on est dans des situations économiques où l'inégalité est encore plus criante. C'est vrai évidemment aux États-Unis, qui là où on a une situation totalement évidente. C'est vrai du Royaume-Uni, hein, où les inégalités ont énormément progressé, bon, sous Thatcher et puis ensuite. Et c'est vrai alors en partie de l'Espagne, où là on a peut-être plus spécifiquement une question de la jeunesse, hein, de la jeunesse au chômage, hein, et avec dans cette incapacité à retrouver le marché du travail. Est-ce que c'est un peu ça qui fait la différence entre bon
C'est les formes de lutte sociale et de lutte de classe dans chaque région ou sous-région. C'est-à-dire que ce qui se passe au Maghreb Machrek, ce qui se passe en Amérique latine, ce qui se passe en Amérique du Nord, ce n'est pas la même situation. Et en Europe, nous sommes dans une situation dans laquelle la crise européenne en est encore à ses débuts, et dans laquelle la crise européenne, justement, prend des formes différentes entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord. L'Europe du Sud avec, justement, Espagne, Grèce, Italie, dans lequel l'offensive du capital financier est tellement violente qu'elle se traduit par des mouvements beaucoup plus forts, et que, par contre, en France, en Allemagne, la proposition des bourgeoisies françaises, allemandes, etc., c'est de chercher des formes de cogestion, de compromis, qui permet de faire passer plus facilement la question des inégalités sociales.
D'accord.
Et donc, effectivement, les formes de réponse des peuples n'est pas la même.
Ok, mais... Merci. On va procéder à notre première pause musicale et justement on va écouter un peu le modèle allemand, c'est Das Modell von Bayer. Wow.
Et
Eh bien, vous êtes toujours Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, animé aujourd'hui par la Fondation Copernic, autour de la question des indignés Occupy. Et on a, comme tout à l'heure, nos deux invités, Gus Massia et Geoffrey Players. Alors, on a un petit peu, dans cette première partie de l'émission, on a un petit peu brossé hein, le tableau de ces mouvements. Peut-être maintenant on peut essayer d'aller un petit peu plus loin et de voir deuxième question hein, qui serait un peu qui tournerait un peu autour de l'idée bon mais quels sont les rapports finalement qu'entretiennent ces mouvements avec les mouvements traditionnels, alors soit les mouvements syndicaux et politiques, soit des mouvements moins traditionnels que sont les intermondialistes, et finalement est-ce qu'on peut dire qu'il y a des approches qui sont communes à ces différents mouvements, et ça quels que soient les pays qui dont ils proviennent. Alors Geoffroy.
Oui, ce sont évidemment aussi de vastes questions. Un petit mot peut-être sur la relation avec les syndicats, les autres mouvements. Ici, c'est vrai qu'il y a une spécificité de quelques pays, pas uniquement la France, mais notamment la France, où le mouvement indigné, qui était quand même relativement peu nombreux, était surtout composé de personnes qui n'étaient pas engagées ou peu engagées dans d'autres mouvements, et avec parfois, dans certains entretiens, dans certaines expériences, un rejet même des personnes plus militants, même pas traditionnelles, des gens qui appartenaient à des organisations.
Un rejet d'une forme de militantisme traditionnel. On va retrouver, d'ailleurs, on va en parler hein, tout de suite après, peut-être, ça sera peut-être la seconde question, hein, ce sont les formes d'engagement hein, qui sont adoptées.
Mais traditionnelles, disons, même jusqu'aux organisations intermondialistes. Hein, donc là, il y avait quand même parfois une rupture. Et je pense qu'il faut le nuancer par rapport à l'expérience d'autres pays. On voit, par exemple, on parle beaucoup de Occupy Wall Street, et on a très peu vu les syndicats dans les médias. Il faut savoir que derrière Occupy Wall Street, il y avait un support assez important des syndicalistes et des syndicalistes de base, de l'organisation bien sûr, mais aussi des syndicalistes de base. Surtout quand le campement a failli être expulsé la première fois, des syndicalistes et des gens de différentes organisations se sont mobilisés massivement pour soutenir le mouvement. Quand j'étais à New York pendant l'hiver 2011-2012, les réunions d'Occupy Wall Street se tenaient dans des locaux des syndicats. Et donc il y avait aussi des conseils de temps en temps qui passaient, mais ils étaient, je pense, de manière très intelligente en deuxième ligne, sans vouloir être médiatique, sans vouloir reprendre le mouvement. C'est un mouvement différent, dont je dirais qu'ils ne comprenaient pas tout à fait toutes les formes. Les syndicalistes, c'était différent pour eux, mais ils étaient là pour le soutenir en disant oui, c'est une lutte commune, et ils ont réussi à faire quelque chose que nous n'avons pas réussi à faire, c'est-à-dire remettre la question des inégalités au centre. Avec le mouvement intermondialiste, là, je pense que la formulation de Gus est très juste. Ces mouvements prolongent et renouvellent quelque part ce mouvement intermondialiste qui est toujours présent, il est loin d'avoir disparu. Donc évidemment, la question de la nouveauté, c'est toujours un grand débat. Est-ce que c'est nouveau, est-ce que ce n'est pas nouveau? Ça ne me paraît pas essentiel. La question qui paraît plus intéressante, c'est est-ce que ce mouvement est intéressant et en quoi? Quel est son intérêt? Quelles sont ses limites? Qu'est-ce qui se passe? Par rapport au mouvement intermondialiste, c'est vrai qu'il y a une série de continuités. Surtout quand on parle des jeunes militants, les alter-activistes. Par exemple, il y a quelques années, un groupe très dynamique à Paris, Vamos, qui était une expérience très intéressante. Et on retrouve des choses qu'on voit aujourd'hui dans les mouvements indignés. Les campements, qui aujourd'hui, avec les indignés, sont au cœur des villes. Mmh. Mais les campements, c'était une forme très utilisée par les jeunes altermondialistes. Et avant eux, dans les années 60 et 70 aussi, notamment par les autonomistes italiens. On avait des campements qui rassemblaient jusqu'à 10 000 personnes, par exemple en Allemagne, autour du G8 à Heiligendamm. Il y avait aussi le campement d'Evian, qui était assez intéressant. Il y a eu, lors du Forum social européen de Paris, un espace des jeunes et des sans, où les activistes dormait là-bas, logeait sur place. Donc il y a cette expérience qui est intéressante, avec les mêmes formes d'engagement préfiguratif de démocratie participative. Préfiguratif, ça veut dire qu'il s'agit de mettre en œuvre, mettre en pratique les valeurs du mouvement. Et donc il y a, et donc notamment par la démocratie participative, on décide des choses de manière très horizontale. Et donc là-dedans, le dernier aspect, c'est l'idée aussi d'expérience subjective. C'est-à-dire qu'on peut dire que ces campements des indignés, mais aussi des altermondialistes, on peut dire oui, mais après quelques semaines, il n'en reste plus rien. Je crois que c'est faux. C'est une expérience très forte pour les gens qui vivent cette expérience et qu'ils vont garder avec eux pendant toute leur vie. Ils vont avoir des contacts, ils vont transformer leur manière de
faire les choses. Cette question de la durée, on la gardera pour la troisième partie de l'émission, si tu veux bien, puisque ce sera un petit peu ça notre idée, c'est finalement, et qu'est devenir, hein, on en discutera tout à l'heure. Gus Massia, sur cette question un peu du rapport de ces mouvements
effectivement, il y a une continuité et un renouvellement entre le mouvement altermondialiste et ces nouveaux mouvements. dont une partie est d'ailleurs tout à fait présente dans les forums sociaux, et une partie des mouvements altermondialistes est tout à fait présente dans les campements, etc. Ce qu'il y a, je pense que c'est que il faut voir que la différence, ce n'est pas du tout qu'un certain nombre de composantes dites traditionnelles ne sont pas présentes. Ça, ce n'est pas vrai. Aussi bien dans le mouvement intermondialiste, et comme l'a dit Geoffrey, dans les nouveaux mouvements, on retrouve le mouvement syndical, on retrouve le mouvement paysan, on retrouve le Mais, par contre, ce qui est nouveau, c'est que il y a une...
C'est pas ce qu'on voit, effectivement.
Si on va en Tunisie, on se rend compte que ça a commencé, effectivement, avec les luttes ouvrières et les syndicats, et qui sont toujours présents, mais ils sont pas seuls. La différence, c'est que il n'y a plus cette idée que le mouvement est représenté par un mouvement et que les autres doivent s'aligner. C'est-à-dire, c'est la rupture avec l'idée des contradictions principales et des contradictions secondaires qui avaient défini la stratégie du mouvement ouvrier dans la période précédente. Parce que, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'il y a une convergence des mouvements. Il y a une diversité des mouvements. Et il y a une acceptation de la diversité des mouvements. Et quand on regarde, par exemple, de quoi sont composés ces mouvements, eh bien, je parle du mouvement altermondialiste, mais aussi d'une partie des nouveaux mouvements. Ben, comme le disait, par exemple, Geoffrey, ben, aux États-Unis, Unite et un certain nombre de syndicats participent complètement sont présents dans ces mouvements-là. Et en fait, on se rend compte que... on a effectivement des syndicats de travailleurs, des syndicats paysans, on a des mouvements de femmes, on a des mouvements sur les droits humains, on a des mouvements de jeunesse et des mouvements étudiants, on a des mouvements comme les peuples indigènes ou les Idelmores au Canada, et on retrouve une diversité beaucoup plus grande de mouvements avec l'idée que personne n'a le droit de parler au nom de tout le monde.
Alors oui, justement, alors c'est une question qu'on voulait aborder avec tous les deux, c'est le fonctionnement, comment ça se passe sur place, comment on décide de la suite à donner au mouvement, quel est le fonctionnement de ces mouvements ?
Gus,
peut-être ?
Oui, justement, ce qu'il faut voir, c'est comment ces mouvements sont en train de se constituer et de chercher de nouvelles formes. Parce que si on revient dans l'histoire, on peut pas dire que il y a toujours eu des mouvements qui ont été organisés, etc. Si on regarde, par exemple, le rôle qu'a joué dans le mouvement ouvrier la Commune, on peut pas dire que ça a été un modèle d'organisation effectivement, s'est ensuite reproduit partout. Non, il y a dans les périodes de bouleversement révolutionnaire, il y a une grande créativité, y compris dans les formes d'organisation.
Certes, mais à la différence près...
Ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est de voir comment toute une série de nouvelles questions sont posées sur la complexité du social aujourd'hui, sur l'arrivée de nouvelles générations. Par exemple, que représentent les collectifs de logiciels libres dans les mouvements ? Par exemple, comment est-ce que l'on pose la question du rapport entre l'individuel et le collectif ? Comment on pose le problème des comportements de consommateurs par rapport au comportement des producteurs ? Comment on pose le problème des nouveaux rapports à la nature ? Et donc, ces mouvements sont en train d'expérimenter la prise en compte de l'ensemble de cette diversité. Et effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de forme d'organisation telles qu'on les a connues auparavant, mais peut-être parce que, justement, il y a une remise en cause des résultats qui avaient été obtenus auparavant. D'une certaine manière, la grande équation politique qui était admise comme étant la seule qui permettait le changement social, c'est-à-dire, il faut créer un parti pour conquérir l'État, pour changer la société, eh bien, on se rend compte que, quand on crée un parti pour conquérir l'État, il devient parti État avant même d'avoir conquis l'État, et que l'État est très important pour changer la société, mais l'État n'est pas la seule manière de changer la société. Et donc, je reprends peut-être la formule de Esther Vivas, qui est une des animatrices, enfin une des personnes très actives dans le mouvement des indignés espagnols. Elle dit, ce mouvement, il faut le prendre comme un prologue.
D'accord. Mais j'étais un peu provocateur, là je m'adresse à Geoffrey. Est-ce qu'on n'a pas quand même une... Je vais être provocateur. Hein. Est-ce qu'on n'a pas quand même une survalorisation de l'individu dans cette affaire-là, de l'individuel par rapport au collectif, et quelle est la relation entre individu et collectif dans ces mouvements?
Je pense que c'est effectivement, comme on l'a dit, un défi important. C'est-à-dire que c'est un mouvement aussi qui n'est pas pour... qui est un mouvement qui ne se veut pas uniquement représentatif, et donc il faut que chacun puisse participer à la discussion, et ils ont parfois été extrêmement efficaces. Je me rappelle une assemblée à Londres où 200 personnes se réunissent et en 45 minutes, ils arrivent à discuter des activités de la semaine suivante. En 45 minutes, avec une participation de chacun, on divise en petits groupes, il y a des formes aussi pour dire qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord, etc. Et donc là, une alliance entre une certaine efficacité et une grande horizontalité, une volonté de participation très forte et d'écoute exceptionnelle dans le mouvement. L'Assemblée ici, des réunions des ennemis à Paris, on écoute pendant des heures et des heures l'expérience vécue des gens, ça me paraît très important. Et donc là, comment allier l'individu et le collectif? Je suis d'accord avec Gus sur cette idée aussi de dépasser les organisations traditionnelles, notamment grâce aux nouvelles technologies. Il y a aujourd'hui des assemblées, des alignées, des assemblées globales qui se font sur des plateformes nouvelles, en partie reconfigurées par les alignées et Occupy Global. Et donc, ce sont des technologies intéressantes. Cela dit, il faut aussi se poser la question de limites. Je crois qu'il faut aller au-delà de cette idée de dépasser cette idée des réseaux qui sont plus puissants que les organisations. On a souligné l'importance de l'appui des syndicats. Bon, il faut aussi souligner que les réseaux parfois sont un peu plus sporadiques. Et donc, bien sûr, ils sont importants, mais ce sont des formes d'organisation différentes. Mais ça reste un défi permanent. Comment être ne pas avoir trop de représentation, comment faire en sorte que tout le monde puisse participer et en même temps aussi être efficace, peser sur l'agenda politique. Et donc je crois que c'est un vrai défi pour ces mouvements, mais je dirais au-delà pour la démocratie aujourd'hui.
D'accord, merci. Alors on va revenir juste après sur les limites hein, de ces différents mouvements. Dans la troisième partie de l'émission, on va écouter Gang of Four, Damage Good. Bonsoir à tous, donc vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, donc sur l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic et consacrée ce soir au mouvement de jeunesse des indignés aux Occupy. Donc on a eu l'occasion de voir un peu les contours de ces mouvements et puis leur spécificité par rapport à des modes de contestation, on va dire, plus traditionnels. Donc cette troisième partie, plutôt sur les limites, voire même les suites à donner à ces mouvements. Alors Gus, peut-être pour rebondir hein, sur ce qu'a commencé à évoquer Geoffrey, sur par exemple le fait de privilégier la démocratie directe, sur la rotation des tâches, les assemblées générales, le refus d'un leader individuel, est-ce que on n'est pas là dans des formes aussi qui peut-être nuisent entre guillemets un peu à l'efficacité de ces mouvements, ou est-ce qu'on est assez puissant, on va dire, dans ces nouvelles formes d'exercer la démocratie sociale?
Bon, disons, je suis un peu gêné par le terme des limites. Parce que quand on dit mais quelles sont ces limites de ces mouvements par rapport à des formes qui seraient plus efficaces, on estime d'une certaine manière que, bon, allez, on va s'amuser un peu et puis après on va revenir aux choses sérieuses. Et les choses sérieuses, évidemment, ce sont les organisations telles qu'on les a connues. Et peut-on dire qu'elles sont vraiment très efficaces? Donc, plutôt que des limites, je suis bien d'accord qu'il faut se poser des questions sur ces mouvements. Et donc, je dirais plutôt, quels sont les défis de ces mouvements pour lesquels ils sont en recherche de quelque chose? Ce n'est pas quelque chose qui existerait déjà et qui suffirait de s'en rapprocher. Il s'agit d'inventer de nouvelles formes. Et quels sont les défis de ces mouvements? Eh bien, il y a deux défis, qui sont deux énormes défis, qui ne sont pas les défis des mouvements, qui sont les défis des sociétés aujourd'hui et de la société mondiale. Le premier défi, c'est la question du pouvoir. Et quand on parle de la démocratie, en réalité, la question qui est posée, c'est la question du pouvoir. C'est pas la question de s'organiser pour pouvoir mieux mieux s'entendre entre les quelques personnes qui sont là. C'est réellement la question du pouvoir, et jusqu'à maintenant, les formes d'organisation classiques précédentes avaient quand même toujours cette idée que la question du pouvoir, c'est comment prendre le pouvoir pour changer la société. Et ce que disent les mouvements aujourd'hui, c'est que le problème n'est pas seulement de prendre le pouvoir, le problème c'est de savoir mais comment on fait pour réorganiser, pour réinventer le pouvoir dans les sociétés. C'est ça la signification d'une nouvelle démocratie. Et puis, il y a un deuxième défi qui est posé au niveau des mouvements et qui est aussi considérable que la question du pouvoir, c'est la question de la transition. C'est-à-dire, effectivement, comment on invente une nouvelle société qui soit, d'une part, sur le plan social, avec plus d'égalité, comment on construit des sociétés dans lesquelles il y a plus de liberté, y compris de liberté individuelle et collective. Parce que le mouvement ne dit pas qu'il faut être individuel. Le mouvement est très collectif. Mais le problème, c'est comment on invente des nouvelles formes de collectif qui permettent aux individualités et pas à l'individualisme de s'exprimer. Et comment est-ce qu'on prend en compte le nouveau défi qui est le défi écologique et le défi de civilisation. Voilà, je pense que c'est un peu ça. Donc, on ne peut pas en vouloir à ces mouvements de ne pas avoir de réponse par rapport à ces deux questions. Ils contribuent à rechercher des solutions. Et ce qu'ils disent, et je crois que c'est très important, c'est que il ne faut pas que les sociétés, finalement, confient un monopole à des délégations, des partis, on ne sait pas quoi, pour chercher des solutions pour tout le monde.
D'accord. Geoffrey, alors maintenant, on avance dans l'émission. Peut-être est-il temps là de s'interroger sur où en sont aujourd'hui ces mouvements et qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux dans les années à venir.
Tout à fait. Je pense comme Gus l'a fait d'emblée, ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est de dire bon, bien sûr, il s'est passé des choses sur les places, dans les mouvements indignés, etc. Mais ces mouvements n'ont pas disparu. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Il faut aller un peu au-delà de ce qu'on voit dans les médias. C'est pas parce que c'est plus tous les jours dans la presse que tout ça a disparu. Et donc, je pense que ce sont des mouvements qui continuent d'exister sous d'autres formes. Je ne dis pas qu'ils sont toujours aussi dynamiques partout, mais enfin, il y a quand même des choses. On voit par exemple un impact important sur l'opinion publique. En Espagne, il y a un sondage qui vient de sortir. 78% des Espagnols trouvent que les alignés ont raison, selon un sondage publié dans El País il y a quelques jours. 78%, c'est considérable,
c'est énorme,
c'est peut-être du jamais vu pour des mouvements, mais surtout deux ans plus tard. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a un changement dans l'opinion publique. Il y a des débats qui ont changé aussi. Cela dit, l'impact sur la politique, ça reste à voir, parce que oui, en Espagne, c'est une démocratie qui est en partie vide. Les choses, la politique espagnole.
C'est peut-être un des défis que n'a pas cité Gus, c'est-à-dire le défi
Le défi fondamental, finalement, c'est penser la démocratie au-delà de l'État-nation. Et quand on pense la démocratie au-delà de l'État, c'est des formes aussi qui sont différentes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser la démocratie comme on la pense en l'État-nation uniquement. Oui, la démocratie représentative dans l'État-nation, mais penser la démocratie au niveau local, au niveau national, au niveau européen, qui paraît essentiel, et au niveau global, il faut la penser de différentes manières. Et là, ces mouvements sont assez extraordinaires parce qu'ils sont très créatifs, ils pensent beaucoup. Il y a aussi des défis, mais aussi des limites structurelles. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut vraiment changer le monde en multipliant les petits espaces locaux, la démocratie participative? Je dirais oui, c'est un élément important, mais pas tout seul. Et parmi les autres défis aujourd'hui, très clairement, il y a aussi le niveau européen. Je suis frappé de voir qu'il y a autant d'intellectuels. Il suffit de regarder les gens télévisés, on parle de l'Europe tous les jours. Il semble que le problème et la solution sont en grande partie au niveau de l'Europe. Et pourtant pour la plupart des activistes, ils ne parlent pas forcément d'Europe. Une partie d'entre eux, oui. Les experts, un peu plus intellectuels, voient des politiques européennes, l'évasion fiscale, etc. Il y a la Tax Justice Network fait un gros travail là-dessus, bien sûr. Mais si on parle avec d'autres personnes, avec des jeunes, par exemple, qui sont dans les AMAP ou dans ces mouvements pour la consommation, ils m'expliquent qu'en fait, pour eux, l'Europe, c'est très éloigné et ils en parlent très peu. Le changement se fait avant tout au niveau local. Les alignés, ils me disent aussi, pour certains, l'Europe est importante. Pour d'autres, ils me disent, pourquoi est-ce que je dois être davantage solidaire avec un Danois qu'avec un Sénégalais? Et donc, on passe en gros du niveau très local à un niveau très global. Et donc, on peut quand même se dire là que par rapport à des mouvements d'il y a 15 ans, le niveau européen et voire peut-être le niveau international est quand même moins présent, alors qu'on a l'impression que les défis sont plus importants encore au niveau européen. Il y a 15 ans, il y avait des marches européennes contre le chômage qui allaient à Amsterdam pour le sommet européen de 97. Il y a 15 ans, il y a eu une grève européenne contre la fermeture de l'usine Renault à Vilvoorde en Belgique. Et donc, il y a des travailleurs en France qui se mobilisaient pour ça. Il y a quelques mois, Mittal ferme une usine en France, pas de réaction ailleurs. 2 mois plus tard, Mittal ferme une usine en Belgique, pas de réaction ailleurs. On peut être choqué par le fait que la Grèce coule à ce point-là sans qu'il y ait trop de réactions. Et c'est un peu comme si les gouvernements prennent leur politique et les mouvements sont très nationaux, ils revendiquent des choses face au gouvernement et ils passent d'un pays à l'autre, mais avec très peu de coordination. Alors, d'où tout.
Peut-être qu'on peut demander à Gus, dans son vécu militant, si c'est quelque chose aussi qu'il a constaté ces 15 dernières années, comme le dit Geoffrey.
J'ai quand même l'impression qu'il y a un petit débat entre vous néanmoins, non ?
C'est-à-dire que, effectivement, la question qui est posée au niveau des mouvements n'est pas de dire il ne faut pas d'organisation, mais de réinterroger ce que signifie l'organisation et de refuser d'arrêter de réfléchir à partir du moment où il faut s'organiser pour arriver à gagner. Voilà. Et donc, je crois que c'est un peu ça la question, et c'est la question que nous sommes posés dans la génération militante et nous avons vu par exemple comment après la période de 68 dans lequel ont explosé toute une série de nouvelles propositions, on s'est posé la question assez vite, et si on revenait à des organisations classiques, et on a reconstruit des organisations tout à fait classiques qui finalement ont échoué, ont disparu. Et donc je crois que c'est un peu ça la question.
Sur la solidarité européenne de ces mouvements, est-ce qu'elle existe encore? Geoffrey disait justement que cette solidarité était moins prononcée. Est-ce que c'est un constat partagé?
Une solidarité moins partagée
Au niveau européen?
Ah non, au niveau européen, je pense que la question est en fait différente. C'est la question de la crise de l'Europe. Et de ce point de vue, la question de la crise de l'Europe est évidemment une crise sociale. Comme je disais, c'est toujours un soubassement social. Mais la dimension géopolitique est extrêmement importante parce que, d'une certaine manière, la question au niveau européen, c'est comment penser son identité quand on sait qu'on ne sera plus au centre du monde. Et ça, c'est quelque chose qui se traduit par un désenchantement des mouvements européens. Et de ce point de vue, il y a deux réponses possibles. Une des réponses possibles, c'est de dire, eh ben non, on continuera à être au centre du monde, on continuera à être le centre du monde, et pour ça, il faut s'organiser, il faut accepter de redire que nous sommes le centre du monde, y compris sur un plan militaire ou autre s'il le faut. Et il y a une autre proposition qui est de dire, eh bien peut-être qu'on peut construire un autre monde dans lequel on n'aura pas besoin d'un centre et de périphérie, et ça, c'est une des propositions qui est en germe dans les mouvements.
Oui, mais il ne reste pas moins que Geoffrey a posé, à mon avis, une question qui était intéressante. C'est que on a pu voir apparaître des mouvements de solidarité ouvrière. Oh, c'est la cité Vilvoorde, par exemple. Hein. Est-ce qu'on a des exemples de ce type de solidarité qui dépasse les frontières dans ces mouvements?
Alors, oui, je pense qu'il y a fondamentalement une solidarité, notamment au niveau européen. On le voit bien, par exemple, entre ce qui se passe avec l'Alter Summit qui se prépare.
Oui, voilà, là, c'est un exemple, effectivement.
L'ensemble des propositions de convergence des mouvements sociaux européens. Hein, ça, bon, et donc, effectivement, cette proposition existe, mais effectivement, elle nécessite d'aller plus loin par rapport à ce que ça veut dire qu'une solidarité entre les mouvements, mais avec quand même une idée qui est forte au niveau de ces mouvements, c'est que ces mouvements mettent en avant une proposition un peu stratégique par rapport à la mondialisation. C'est l'idée de la relocalisation, de la reterritorialisation. Et donc ces mouvements reconstruisent du politique au niveau local, au niveau territorial. Et ils ne veulent pas déléguer à des partis, à des internationales, à on ne sait pas quoi, le fait de mener des luttes pour, on ne sait pas très bien quelle perspective.
D'accord. On va être obligé de décourter maintenant, parce que malheureusement, on va falloir rendre l'antenne. On va laisser un petit mot de conclusion à Geoffrey, et puis ensuite, voilà, on sera obligé de se quitter. C'est dommage, je crois qu'on a encore beaucoup de choses à se dire.
Oui.
Je pense en effet, comme Gus terminait sur le niveau local, ça me paraît essentiel. Tous ces mouvements, au-delà des alignés, ce qui est moins visible, ce sont aussi les mouvements, notamment autour de la consommation, les mouvements locaux, la participation politique locale, c'est essentiel. Cela dit, il y a aussi le niveau national, je le disais, très présent. Ces mouvements sont aussi face au gouvernement, ont des revendications. Le niveau global, très important, mais aussi le niveau européen. Et là, c'est vrai que moi, je suis marqué en voyant que, oui, des activistes experts parlent beaucoup de l'Europe. Des activistes essaient de relancer des syndicalistes, notamment des syndicalistes, mais aussi des gens d'attaque ou des activistes un peu partout, essaient de relancer le processus européen, mais avec quelles difficultés. Et donc, c'est vrai, l'absence de solidarité, le fait que tout est quand même... Pas l'absence, il y a des solidarités, montre... Il y a des solidarités, mais qui sont quand même assez limitées, par rapport à ce qu'il y avait il y a 15 ans. Je pense que ça montre toute l'importance, tout l'intérêt, tout le défi que constituera cette alliance Summit en Grèce qui me paraît une étape importante et donc je pense que ce niveau européen reste un défi important mais certainement pas le seul comme l'a bien souligné Ingus.
Bien, ben écoutez, je crois que ça sera le mot de la fin. On appelle effectivement à suivre tout ce qui va se passer en Grèce prochainement. On vous remercie. Merci Gus, merci Geoffrey.
Merci à vous. Merci Didier, merci Geoffrey.
Donc vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur le site de la Fondation Copernic, donc fondation-copernic.org. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. La Fondation vient d'éditer un an après l'élection de François Hollande, tableau d'un glissement néolibéral. N'hésitez pas à consulter cette publication. Le prochain numéro de Mode d'emploi animé par la Fondation Copernic, ce sera le vendredi 28 juin. Ce sera la dernière émission de l'année sur le thème des inégalités territoriales et de l'aménagement du territoire. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir écouté l'émission. Et puis un dernier morceau musical, Petit Sécou du Bembaya Jazz National.